Zoom Secteur.
Zoom Secteur.
Un podcast, l'officiel de la franchise.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom Secteur. Je suis Nicolas Monnier, journaliste pour l'officiel de la franchise. Si vous êtes des fidèles lecteurs de notre magazine, vous n'êtes pas sans savoir que nous passons au crible chaque mois un secteur économique que nous analysons et décryptons. Pour ce nouvel épisode dédié au marché de l'occasion et de la seconde main, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Samarc, chargé d'études économiques au sein du groupe Zerfi.
Zoom Secteur.
Zoom Secteur.
Choisissez le bon marché pour vous lancer.
Bonjour Benoît, merci d'être à mes côtés.
Bonjour Monsieur Monnier.
On le constate, si des spécialistes de l'achat-revente se sont positionnés il y a quelques années sur la seconde main, de plus en plus de marques de produits neufs rajoutent des corners dédiés à l'occasion. Tout d'abord Benoît, savez-vous désormais ce que pèse ce marché en France et comment va-t-il évoluer ?
Alors, on estime que le marché de l'occasion au sens large, en intégrant donc également les produits reconditionnés, a généré un chiffre d'affaires d'environ 7,4 milliards d'euros en 2020, un chiffre qui a fortement progressé ces dernières années et qui a toutes les chances de continuer à avoir une croissance assez soutenue dans les prochaines années, notamment du fait de l'engouement assez inédit des Français pour la seconde main, qui repose sur trois principaux moteurs. D'une part, l'achat-revente de biens d'occasion est encore aujourd'hui essentiellement et avant tout motivé pour des raisons économiques. C'est l'opportunité d'acheter des biens à moindre frais et en parallèle de revendre des biens pour dégager un petit peu d'argent et améliorer son pouvoir d'achat. Autant dire qu'au vu de la crise actuelle qui pèse sur le pouvoir d'achat d'une grande partie des ménages, cette motivation restera encore la motivation numéro une du marché de l'occasion dans les prochaines années et soutiendra ce marché. Un autre facteur de soutien important, c'est le fait que la seconde main est aussi vue comme l'opportunité de se faire davantage plaisir, soit en achetant plus, c'est par exemple le cas dans la mode où l'occasion offre l'opportunité de suivre au plus près les dernières tendances et de renouveler régulièrement ses collections, à la fois en achetant davantage de biens d'occasion et également en revendant rapidement ces collections qui seraient entre guillemets passées de mode pour générer davantage de budget et renouveler sa garde-robe. Soit en montant en gamme, et c'est notamment cet élément-là qui soutient fortement le marché des smartphones reconditionnés, ou également un marché qui est de plus en plus porteur, celui des produits de luxe de seconde main. Enfin, il y a un troisième point qui est également un élément de soutien fort pour le marché de l'occasion, c'est le fait qu'occasion est également vu comme un moyen de limiter son empreinte environnementale. Et aujourd'hui, c'est un argument qui pèse de plus en plus dans les décisions et les choix d'achat des consommateurs et qui tend à prendre de l'ampleur, alors d'autant plus depuis le début de la crise sanitaire, et c'est une tendance qui est bien sûr amenée à se prolonger dans les prochaines années. Au-delà de cette logique finalement qui soutiennent la demande des consommateurs et leur motivation à se tourner de l'occasion, il y a également un élément qui est assez important pour soutenir le marché de l'occasion, c'est également une logique d'offre, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus facile aujourd'hui de se procurer des biens d'occasion, et plus vous avez accès à un produit, plus vous démultipliez les opportunités d'achat et naturellement plus ça a tendance à soutenir le marché. Donc autant dire qu'au vu des initiatives notamment de la part des enseignes traditionnelles sur ce marché, ça offre là aussi de belles perspectives au marché de l'occasion.
Je comprends. Comment se vend-il aujourd'hui ce marché hors voiture d'occasion ? Quels sont les produits phares ?
Alors, les produits phares, historiquement, c'est les biens les plus achetés et vendus d'occasion. Ça reste les meubles et les articles de décoration. On estime qu'ils représentent à peu près 30% du marché de l'occasion en valeur. Alors, ça s'explique notamment parce qu'on est sur des catégories de produits qui ont une durée de vie bien supérieure à leur durée d'utilisation et qui sont relativement encombrants, ce qui incite les propriétaires de meubles dont ils auraient plus l'usage à vouloir s'en séparer plutôt que le garder chez eux, et ce qui alimente de fait l'offre et le marché. Dans les autres produits traditionnellement vendus d'occasion, on trouve également les livres, les jeux et jouets ou encore les articles de puériculture qui sont là encore des catégories de produits dont la durée d'usage des consommateurs va être nettement inférieure à leur durée de vie réelle, et ce qui les incite donc à les revendre. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas forcément ces segments historiques qui progressent le plus. Les produits phares qui sont aujourd'hui les plus dynamiques et qui offrent les plus fortes perspectives de croissance, en numéro un, je pense bien évidemment aux articles de mode. C'est un marché qui a généré un volume d'affaires de plus d'un milliard d'euros en France en 2020. Et selon l'IFM, c'est aujourd'hui près de 40% des Français qui ont au moins acheté un vêtement d'occasion en 2020, contre à peine 10% il y a 10 ans. Donc on est vraiment sur un taux de pénétration qui progresse et de nouvelles habitudes de consommation qui progressent dans la mode en faveur de biens de seconde main. Un autre marché également dynamique sur l'occasion, c'est les produits de luxe. De plus en plus de consommateurs et notamment de jeunes consommateurs n'hésitent plus aujourd'hui à se prendre l'occasion pour s'acheter une ou deux pièces de luxe emblématiques pour leur garde-robe. Bien évidemment, le marché des smartphones reconditionnés qui a explosé maintenant depuis une dizaine d'années et qui continue à fortement progresser. D'après les dernières estimations de GfK, ce sont près de 2,6 millions de smartphones reconditionnés qui ont été achetés en 2020. C'est plus de 20% de croissance. Ça représente près d'un téléphone sur 10 qui est aujourd'hui acheté en France. Et de manière générale, tous les biens techniques reconditionnés offrent aujourd'hui de belles perspectives de croissance, sous réserve qu'il y ait bien évidemment une offre suffisante en face et fiable entre guillemets avec des garanties réelles. Je pense notamment à l'électroménager, qui est sûrement un marché sur lequel l'offre d'occasion reste relativement limitée aujourd'hui et qui a priori a toutes les chances de séduire également les consommateurs.
Je comprends. On le voit, acteurs de la grande distribution, circuits spécialisés, enseignes électrodomestiques, tous s'y mettent. Il semblerait donc que ce levier de croissance donne le tournis au monde du retail. Vous n'allez pas me contredire ?
Non, effectivement, vous avez raison. Ça touche effectivement quasiment tous les circuits de distribution. On trouve quand même quelques circuits spécialisés importants qui pour l'instant n'y vont pas. Parmi les exemples les plus marquants ces derniers mois, on trouve notamment les grandes surfaces alimentaires. Quasiment toutes les enseignes de la grande distribution ont ouvert depuis le début de l'année 2020 des corners d'achat-revente de biens d'occasion. Carrefour l'a fait en partenariat avec Cash Converter. EasyCash ouvre des corners chez Géant Casino et chez Cora. U et Leclerc ouvrent également leurs espaces dédiés à l'occasion avec de fortes ambitions en termes de déploiement. Auchan accueille des corners à mode de seconde main. On trouve effectivement, alors c'est vraiment le circuit sur lequel tous les acteurs y vont. Et du côté des spécialistes, alors dans la mode qui habille Gémeaux, on ouvre des corners. Pinky le fait également. On trouve également les acteurs de l'électroménager, Fnac, Darty, Boulanger, qui proposent aujourd'hui des biens reconditionnés sur leur site de vente en ligne. Enfin, la liste pourrait être assez longue dans le domaine. Ce qu'on peut relever notamment parmi les grands absents, c'est les acteurs du meuble. Bien que ce marché d'occasion est particulièrement important sur ce segment, on ne trouve pas d'exemple réellement emblématique ni une certaine émulation de la part des enseignes à se lancer sur ce marché, qui vient peut-être et sûrement de la caractéristique des meubles. Hein, aujourd'hui, le plus simple pour acheter ou revendre un meuble d'occasion, c'est sûrement de se l'échanger de main à main et de faire une transaction indirecte qui se laisse finalement relativement peu d'opportunités à un intermédiaire qui se positionnerait entre l'acheteur et le vendeur, sans compter que c'est du fait des volumes de ce type de produits, sûrement l'un des biens sur lequel il est le plus difficile de trouver un business model rentable ou à minima viable économiquement pour les enseignants.
Est-ce que ça veut dire que ça signe la fin des précurseurs, c'est-à-dire des spécialistes de l'achat-revente ?
Alors non, je pense pas. Pour eux, maintenant, l'achat-revente de biens d'occasion, c'est vraiment un métier à part entière. Ça n'a rien à voir avec acheter un bien neuf pour le revendre à des clients comme le font les détaillants traditionnels. Il s'agit d'être capable d'acheter au bon prix, de réussir à attirer au-delà d'attirer des acheteurs pour revendre ses produits. Il faut aussi réussir à attirer les vendeurs qui vont vous permettre de constituer des stocks. Il s'agit de réussir à acheter au bon prix et de revendre au bon prix par la suite. Donc on est vraiment sur un business model qui est très différent, sans compter les opérations de reconditionnement qui peuvent être faites sur certaines catégories de produits. Donc aujourd'hui, ça paraît peu probable que ces enseignes disparaissent. Elles ont encore une longueur d'avance du fait de leur légitimité sur ce marché et de leur savoir-faire. D'ailleurs, la majorité des enseignes des acteurs du neuf qui aujourd'hui se lancent sur ce marché le font quand elles proposent une offre d'achat-revente en partenariat avec ces acteurs historiques. C'est le cas des grandes surfaces alimentaires, c'est le cas également des enseignes de mode qui proposent des corners comme Kiabi, Gémeaux ou Kinky, qui se sont associés avec Patatum ou Kilo Shop, des spécialistes de l'achat-revente de biens de seconde main. Donc aujourd'hui, elles ont encore un bel avenir devant elles. L'enjeu sera davantage pour elles de réussir à tirer au maximum profit de cette croissance du marché de l'occasion. Est-ce que ce sera en se positionnant comme des sous-traitants, ces acteurs du neuf qui se lancent sur le marché de l'occasion? Est-ce que ce sera éventuellement en lançant de nouveaux concepts de magasins pour séduire ces nouveaux consommateurs qui se tendent vers le marché de l'occasion, qui correspondent peut-être pas tout à fait à leur clientèle habituelle? Est-ce que ce sera éventuellement d'être davantage visible sur la vente en ligne, un canal sur lequel plusieurs enseignes sont présentes, mais aujourd'hui elles sont largement devancées par des plateformes comme Vinted ou d'autres plateformes spécialisées. L'enjeu sera davantage là pour elles, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'elles ont encore toute leur place pendant encore plusieurs années.
Au regard de ce que vous me dites, pensez-vous que les mois qui viennent vont voir l'arrivée de nouvelles enseignes sur ce créneau?
Alors oui, c'est très probable. D'une part, parce que les enseignes actuelles qui interviennent sur l'achat-revente de biens d'occasion, que ce soit Cash Converter, EasyCash, etc., finalement, elles se différencient assez peu. Elles mettent tout en avant avant tout les petits prix, avec des concepts de magasins assez simples qui valorisent relativement peu l'offre par rapport à ce qu'on peut trouver dans des circuits spécialisés du neuf. Et donc le potentiel pour venir proposer une enseigne différente sur ce marché, il est réel. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Il y a EasyCash, un acteur majeur du secteur, qui a lancé Verso en mars dernier avec un premier magasin à Bordeaux et puis un deuxième magasin qui a ouvert d'ailleurs tout récemment au mois de juin à Paris. C'est une enseigne d'achat-revente assez classique, à la différence qu'elle propose uniquement des produits d'occasion haut de gamme, voire de luxe, notamment des montres ou des articles de maroquinerie, et qu'elle a choisi pour le moment de s'implanter exclusivement en centre-ville. Donc avec clairement l'idée d'aller vers ces nouveaux consommateurs qui se tournent vers le marché de l'occasion, davantage des urbains, davantage des personnes qui vont vers le marché de l'occasion, soit pour des raisons environnementales, soit pour davantage se faire plaisir, notamment monter en gamme, plus que pour des raisons économiques et avec l'objectif d'aller chercher les plus petits prix possibles. Donc, c'est un premier exemple qui est assez marquant. Il y a également Upside Store, qui est une enseigne qui se développe, qui a réellement accéléré son développement depuis l'été 2020, qui est spécialisée, elle, uniquement dans l'achat-revente de produits high-tech reconditionnés, notamment des smartphones, des ordinateurs, des objets connectés, et qui a déjà aujourd'hui une quarantaine de magasins en France en à peine un an, et qui vise l'ouverture d'une centaine de boutiques d'ici la fin d'année. Avec un ambitieux projet de développement et la particularité que jusqu'à présent, elle a essentiellement privilégié l'implantation dans les centres commerciaux. Ce n'est pas vraiment historiquement le cas des enseignes d'achat-revente traditionnelles.
Tout à fait, mais pour ces enseignes du neuf, est-ce qu'il n'y a pas un risque de cannibaliser leur marge et d'écorner leur image de marque?
Oui, effectivement, c'est un risque réel, hein, puisque demain, proposer des produits d'occasion à des tarifs nettement inférieurs aux produits du neuf, ça va forcément entraîner un report des ventes vers ces biens d'occasion moins bien valorisés. Aujourd'hui, je pense d'ailleurs que la majorité de ces enseignes le font d'abord par finalement la nécessité de prendre cette vague du marché de l'occasion et de fidéliser leur clientèle et d'éviter de la voir partir vers ces nouveaux acteurs ou des concurrents qui se positionneraient sur ce marché, plus que parce qu'elles ont réellement la perspective d'y trouver un relais de croissance rentable. Aujourd'hui, le point commun de toutes ces enseignes, c'est d'avant tout tester des concepts et des formats qui sont pas forcément rentables pour le moment, hein. Les modèles restent à s'affiner. Mais au-delà des risques quant à leur marge, il y a également d'autres enjeux sur lesquels elles peuvent y tirer des profits. C'est notamment le fait de stimuler la fréquentation de leurs points de vente. Et là, l'offensive des GSA rentre clairement dans cette logique-là, en attirant des consommateurs qui viendront chercher des biens d'occasion dans leur rayon. L'objectif, c'est de manière générale de redynamiser la fréquentation de leur hypermarché. Et derrière, de générer des ventes, notamment de produits alimentaires qui restent le cœur de leur offre. Donc finalement, pour elles, le risque est plus limité puisque les biens d'équipement de la maison et de la personne représentent c'est environ 20% de leur chiffre d'affaires. Donc on n'est pas réellement sur le cœur de leur offre. Et sur ces segments-là, elles sont déjà en perte de vitesse depuis plusieurs années du fait de la concurrence des acteurs de la vente en ligne. Donc elles ont entre guillemets rien à perdre à tenter une offre différenciante pour ramener des clients sur ce type de rayon. En ce qui concerne d'autres acteurs, je pense notamment aux enseignes de la mode. Finalement aujourd'hui, elles sont nombreuses à avoir plutôt privilégié le lancement de plateformes d'intermédiation entre leurs clients pour qu'ils puissent s'acheter et revendre des biens d'occasion sous leur marque, que réellement développer des corners dans les magasins. Et quand elles lancent des plateformes d'intermédiation, je pense par exemple à l'exemple assez intéressant de Tape à l'œil pour la mode enfantine, les acheteurs comme les vendeurs passent dans le magasin pour récupérer le bien d'occasion. Et le vendeur qui a vendu le bien récupère un bon d'achat correspondant au montant de la vente, ce qui permet directement d'inciter le vendeur à racheter de nouveaux vêtements neufs dans le magasin, et l'acheteur comme le vendeur, en allant récupérer son bien d'occasion en magasin, est directement exposé à l'offre neuve de l'enseigne, avec l'idée bien évidemment de susciter des achats complémentaires. Donc il y a au-delà de trouver un modèle directement viable et rentable sur l'occasion, il y a aussi d'autres intérêts qui peuvent leur permettre de doper leur activité sur les biens neufs. En termes d'image, il y a également un intérêt pour valoriser notamment leur engagement environnemental. Bien évidemment, l'enjeu est fort pour elles, notamment lorsqu'elles proposent des produits reconditionnés, d'offrir des garanties relativement importantes et d'avoir des standards de qualité qui leur permettent de ne pas écorner leur image de marque. Je pense notamment à Fnac, Darty ou Boulanger qui proposent des biens reconditionnés. Généralement d'ailleurs en grande majorité des retours clients, soit de produits que les clients ont finalement pas souhaité conserver, soit des produits sur lesquels l'emballage a été abîmé pendant le transport et qui est assez simplement réemballé, et donc avec une garantie sur la qualité du produit qui est assez forte. Et comment dire, le dernier point est effectivement qui est important à relever, c'est que les enseignes qui jouent le jeu jusqu'à intégrer directement leur offre de produits d'occasion dans leur rayon, et donc à la mettre directement en concurrence avec leurs produits neufs, ce sont généralement plutôt des enseignes qui ont un positionnement prix attractif. C'est le cas des enseignes de la grande distribution, on en a parlé, qui peuvent revaloriser leur image prix. C'est également le cas dans la mode des enseignes familiales, comme Kiabi et Gémeaux, qui intègrent directement une offre d'occasion pour certains magasins, en tout cas dans des corners qui sont présents en rayon. À l'inverse, des enseignes comme Boulanger, comme Fnac, comme Darty, alors Decathlon, c'est parfois le cas dans certains magasins, aujourd'hui ne proposent des articles reconditionnés et d'occasion uniquement sur leur site de vente en ligne. C'est également ce qu'a prévu de faire Castorama, qui a communiqué récemment sur son intention de se lancer sur ce marché, ce qui de fait limite la concurrence directe avec les biens neufs qui sont vendus en magasin et qui bénéficient d'une mise en valeur nettement plus forte que ce qu'on peut faire potentiellement sur Internet.
Je comprends parfaitement, c'était très clair. Je vous remercie Benoît d'avoir été parmi nous pour cet épisode consacré au marché de l'occasion et de la seconde main. On se retrouve très bientôt pour de prochains numéros. D'ici là, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes Apple ou encore Spotify.
Zoom Secteur.
Zoom Secteur.
Un podcast, l'officiel de la franchise.